Et bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes deux chercheuses qui vous parleront de l'océan sous deux aspects différents. Je suis une scientifique des sciences dures. Je suis la directrice des études du département des géosciences ici à l'ENS. Et ma spécialité, je suis physicienne et je travaille sur l'océan. Donc je suis une océanographe physicienne. Et en particulier, je travaille sur les rôles de l'océan dans notre système climatique. Et ces dernières vingtaines d'années, je me suis beaucoup impliquée dans les rôles de l'océan dans les changements climatiques. Et on verra un peu ceci. Et ensuite, ma collègue, Fleur Goubert, elle est plutôt sciences humaines sociales. Elle est directrice d'un département de l'Institut de recherche, et du développement. Et donc, elle se présentera ensuite. Donc, je vous amène tout d'abord dans l'océan ouvert et dans les changements climatiques. Donc, si vous avez des questions, ce sont des présentations informelles. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole en levant la main parce que sinon, je ne vous entends pas. Et on discutera peut-être un peu plus ensuite. Donc, tout d'abord, on part par une définition un peu visuelle de ce qu'est le système climatique terrestre. Donc, quand on vous parle du climat, on vous parle d'une température qui augmente, des événements extrêmes dernièrement, mais c'est toujours relié à quelque chose en lien avec l'atmosphère. Donc, température, vous pensez, il fait plus chaud. Mais les systèmes climatiques, ce n'est pas que l'atmosphère, mais c'est notre planète entière. Et notre planète, vous la voyez ici, sur cette diapositive, et c'est une planète que de l'extérieur, donc de l'espace, elle est bleue. D'ailleurs, c'est la seule bleue qu'on voit pour l'instant dans l'espace tout court. Et pourquoi elle est bleue? Parce que 70% de sa surface, elle est couverte d'eau. C'est notre océan. Et ça rend notre climat plus particulier qu'un climat sans eau, et on va voir pourquoi. Donc après, vous avez un peu des continents, c'est en brun, avec de la biosphère, donc c'est en vert, il y en a dans l'océan, il y en a sur Terre, vous la voyez mieux sur Terre parce que dans l'océan, il faudrait aller un peu plus près pour la voir, et en plus, elle est en profondeur. Et d'ailleurs, quand on voit une image de la Terre, on voit juste la surface de l'océan bleu, mais on ne voit pas l'intérieur. Et après, de l'atmosphère, vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez beaucoup d'atmosphère là-dedans, dans cette image? Donc, je suis étrangère, hein, donc j'utilise des termes qui ne sont pas très littéraires, mais bon. Alors, vous ne voyez pas grand-chose de l'atmosphère, parce qu'avec vos yeux, vous arrivez jusqu'à la surface de la Terre, sauf quand il y a des nuages. Et parce que les nuages réfléchissent la lumière du soleil, et donc vous voyez ce qui est réfléchi. Donc dans l'atmosphère, vous voyez que les nuages, et en vérité, ce qui fait notre climat, c'est que les rayonnements solaires arrivent jusqu'à notre planète, la surface, les continents, mais surtout l'océan, et il est transformé des rayonnements solaires, que vous voyez, en chaleur, un rayonnement que vous ne voyez pas, parce qu'il est là aussi la nuit. C'est cet rayonnement qu'on appelle l'infrarouge, mais qui réchauffe l'atmosphère et ensuite elle s'échappe vers l'espace. Alors, cette carte-là, il vous montre, c'est une animation, il vous montre la température de l'océan qui s'est réfléchie aussi dans la température à la surface de la planète avec les courants de surface. Donc vous voyez, tout est rouge dans les tropiques et après, donc rouge ça veut dire chaud. Et après, vous allez plus vers les pôles, sud et nord, et c'est de plus en plus bleu. Ça veut dire de plus en plus froid. Et ça, c'est parce que les rayonnements solaires est très efficace à réchauffer les régions tropicales. D'ailleurs, quand vous rêvez d'une plage blanche avec une mer chaude, vous rêvez des Caraïbes, hein, vous ne rêvez pas des côtes norvégiennes. Donc, ça, c'est parce que les rayonnements solaires est vraiment très efficace. Mais si nous n'avions pas l'océan et l'atmosphère, qui sont nos deux fluides qui enveloppent toute notre planète, c'est réellement efficace dans les tropiques et pas du tout efficace au pôle, faire ici qu'au pôle, on aurait une température proche du zéro absolu, donc invivable, et dans les tropiques, une température proche des très 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 chauds, invivables. Et donc notre planète ne serait pas vivable. L'océan, l'atmosphère, ils sont là, sont des, ce qu'on appelle des fluides, donc ils bougent. Et dans leur mouvement, ils amènent cette chaleur, surplus des chaleurs tropicales, vers les pôles. Et donc il faut aussi qu'on peut vivre en France, on peut vivre même proche de l'Arctique. Et pas trop proche de l'Antarctique parce que là il fait froid, mais bon, c'est parce que c'est isolé par un gros courant. Le plus grand courant que vous voyez là, ça c'est les courants circumpolaires antarctiques qui isolent l'Arctique. Donc dans l'Arctique il fait quand même très très froid. Et donc ces mouvements, si on va dans l'océan Atlantique ici, vous voyez cette eau chaude qui part ici, prend le Gulf Stream et elle est amenée vers le nord, vers nos latitudes, par ces courants. Et ça, ça met des années. C'est parce que l'eau, elle peut contenir la chaleur, elle la libère difficilement pendant des années. Donc c'est notre chauffage local ici. Et ce chauffage dans l'Atlantique, il va jusqu'à l'Arctique avec la dérive nord-atlantique. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand vous regardez, par exemple, la température de l'atmosphère dans ces premiers 12 km, donc celle où il y a tous les événements météorologiques, la température la plus chaude de l'atmosphère, elle est proche de la surface terrestre. Et ensuite, elle s'est refroidie en montant en altitude. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère, dans cette couche, elle est chauffée par les bas. Elle est chauffée notamment par l'océan. Et je vous montre une image de cet réchauffement de l'atmosphère le long du Gulf Stream. Donc cette image, on peut la voir parce que c'est un modèle. Dans la réalité, on ne voit rien parce qu'on ne peut pas colorer la réalité. Mais ça, c'est une coloration artificielle de l'énergie, donc de la chaleur, qui passe de l'océan vers l'atmosphère le long du Gulf Stream. Donc le Gulf Stream, il amène de la chaleur vers le nord, tout en perdant vers l'atmosphère et réchauffe l'atmosphère. Donc c'est ce transfert d'énergie qui rend déjà notre climat, sans les changements, agréable, même à nos latitudes. Alors, on va parler maintenant des changements climatiques. Là, sur cette courbe, je vous montre l'anomalie des températures, donc la déviation par rapport à une température moyenne entre les années 60 et 80, mesurée par des thermomètres. Dans les globes, entre la période pré-industrielle, donc au début de la révolution industrielle, et maintenant. Donc l'anomalie, elle devient positive quand c'est plus fort que la période moyenne, la température plus élevée qu'entre 1960-80, et moins élevée, elle devient bleue. Donc on voit qu'il y a des bleus au début du 20e siècle. On est passé dans les rouges actuellement. Et donc, il y a un bâton comme ça par année. Et ça, c'était l'année 2016, qui était très, très chaude au niveau global. Donc, c'est une température globale, c'est la moyenne sur tous les globes. Et en dessous, en noir, vous avez la courbe d'augmentation des uns des gaz à effet de serre, donc la quantité qui est dans l'atmosphère, et qui a augmenté de manière assez corrélée avec cette température globale. Donc, nous, scientifiques, nous n'avons aucun doute. Sont les activités humaines qui impliquent un changement climatique actuel. Et le problème, c'est que ce changement climatique, il va très vite, beaucoup plus vite de ce qui s'est passé par le passé, donc par rapport à des variations naturelles du système. Et donc, où est le rôle dans tout ça de l'océan ? Donc, l'océan absorbe la chaleur, on le verra, et absorbe aussi une partie de cette quantité de carbone, donc de CO2, qui a été injectée dans l'atmosphère par l'homme, due aux énergies carbonées, donc pétrole, essence, bref, tous les dérivés, et aussi la déforestation. Et non seulement il absorbe cette quantité des gaz à effet de serre et surplus des chaleurs dues à l'activité humaine, mais aussi il limite dans ça énormément l'amplitude de ces changements climatiques. Si nous n'aurions pas eu un océan, aujourd'hui on aurait eu une vingtaine de degrés en plus due à cette activité humaine. Alors, ici, je vous montre déjà que l'augmentation de la température en rouge de l'atmosphère sur les continents, à la surface des continents, et en bleu, c'est l'augmentation de la température de l'océan. Donc, l'augmentation de la température de l'océan, elle monte plus faible, de façon plus faible que la température de l'air. Et alors, vous me direz, bah oui, l'océan se réchauffe, mais pas beaucoup. Bah non, c'est parce qu'il est fait d'eau. Et comme je vous ai dit, il se réchauffe lentement. Il se réchauffe en envoyant de l'énergie, donc cette chaleur, en profondeur. Donc ça, c'est une mesure juste de la température en surface de l'océan. Et si on veut calculer l'énergie qui a été absorbée par les différentes composantes de l'océan, ben voilà, ce qui a été absorbé par l'océan, j'ai oublié de mettre la chiffre, c'est 93%. 3% de l'énergie est partie dans la fonte de la glace. 3% elle est partie dans les réchauffements des continents. 1% uniquement dans l'atmosphère. Donc je suis désolée, ça manque les 93%. Mais donc l'océan a pratiquement absorbé toutes les surplus des chaleurs dues à l'activité humaine. Donc cette augmentation des 1 degré qu'on a vu jusqu'à maintenant à partir de l'ère industrielle, c'est juste une toute petite partie de la quantité d'énergie qui a été mise dans les systèmes par l'homme. Quelles sont les conséquences déjà? C'est l'élévation du niveau de la mer. Alors le niveau de la mer augmente et augmente parce qu'il y a plus d'eau continentale contenue dans les calottes glaciaires, dans les glaciers alpins qui arrivent dans l'océan. Il y a aussi une surconsommation d'eau continentale dans les nappes phréatiques qui arrivent maintenant dans l'océan et c'est reflété ici. Mais aussi l'océan, en se réchauffant, elle se dilate, occupe plus de volume. Et donc, c'est 30% de cette augmentation du niveau de la mer, dont 20 cm depuis le début du 20e siècle, est due au réchauffement de l'océan. Et cette augmentation du niveau de la mer, il implique une érosion accrue aussi sur les côtes. Et donc, on voit l'eau qui s'approche de plus en plus vers des côtes habitées. Mais en plus, il y a des phénomènes d'érosion qui arrivent au niveau qui n'était pas celui d'avant parce que le niveau de la mer augmente. Alors là, je vais sur la quantité des CO2 dans l'atmosphère. Donc, voici la quantité qui a été estimé entre, par exemple, 2002 et 2011, on a envoyé 4,3 gigatonnes par an dans l'atmosphère. Et si on regarde les quantités donc des carbones qui vont dans l'atmosphère et celles qui ne se trouvent pas par rapport à ces émissions, donc on peut mesurer les émissions, mais on en trouve pas tous les produits de ces émissions dans l'atmosphère. Donc, ils sont allés quelque part. Et ces quelque part, c'est ou bien dans la biosphère continentale, on a 25%, et l'autre 25% a été absorbé par l'océan. Et donc, l'océan, non seulement absorbe de l'énergie, de la chaleur, due à l'activité anthropique, mais il absorbe aussi une des gaz à effet de serre, dû à l'activité humaine. Donc, en plus, maintenant, je vous ai juste dû donner deux quantités globales, mais vous avez entendu parler d'événements extrêmes. Donc, ces événements extrêmes, on commence à voir un lien prouvé, parce que le problème de nous scientifiques, c'est qu'on ne parle pas pour parler. On a besoin de preuves quantifiées. Et donc, avant de nous soutirer qu'un événement extrême est vraiment dû au changement climatique, il a fallu qu'on mesure tout ça. Donc maintenant, on commence à voir un certain nombre d'événements, donc des séries temporelles, et on peut commencer à faire des statistiques et associer cette quantification. Et donc, on se rend compte que véritablement les événements extrêmes sont en général plus fréquents ou plus intenses. Et aussi, on commence à voir les liens de ces événements extrêmes avec l'océan. Par exemple, il y a des précipitations qui augmentent avec des inondations dans le sud de la France, les événements qu'on appelle Cévenol, qui normalement commenceront à arriver en début d'automne. Et bien, ceux-là sont dus à une augmentation de la température, de la chaleur immagasinée dans la Méditerranée, qui est restituée à la surface, donc comme le Gulf Stream, hein, à l'atmosphère. Donc l'océan donne de la chaleur, mais c'est aussi la source de l'eau qu'on trouve donc, dans l'atmosphère, donc des précipitations. L'eau qui évapore essentiellement dans l'océan pour ensuite précipiter sur les continents. Et donc, ces événements extrêmes, on commence à voir qu'ils ont une origine assez océanique, au moins un certain nombre d'entre eux. Et en plus, on commence à voir aussi des événements extrêmes dans l'océan. Un de ces événements extrêmes, c'est des coups de chaleur, comme on les a eu cet été sur l'Europe, mais aussi dans l'océan. Et le problème, c'est que dans l'océan, il y a beaucoup de vie, des écosystèmes, et ces écosystèmes, ils n'aiment pas ça. Et donc, une des écosystèmes qui n'aiment pas de tout ça sont les coraux, les récifs coralliens, qui, ils sont pas très bien en ce moment. Leur futur n'est pas vraiment garanti, et donc, ils blanchissent et ils meurent. Ensuite, je vous ai dit que l'océan absorbe du carbone anthropique, donc du CO2, et cette absorption du CO2 fait si que l'océan devient de plus en plus acide. Donc ici, c'est juste une mesure du carbone dans l'atmosphère. Et ici, c'est les pH, donc l'acidité de l'océan, qui augmente dans l'océan. Donc l'océan devient de plus en plus acide. En plus, il y a, avec plus de carbone, donc il y a des réactions chimiques. Tous les coquillages que vous avez, aussi les tout petites qui sont microscopiques que vous avez dans l'océan, prennent leur carbone pour faire leur petite maison dans l'océan. Et ça commence à devenir de plus en plus difficile de trouver ces carbones dans l'océan, ces carbonates dans l'océan pour créer leurs coquilles. Donc, dans les futurs, un océan plus chaud, un océan plus acide, il y a moins de carbonates accessibles. Les écosystèmes marins n'aiment pas ça. Donc il y aura vraiment une petite challenge de ces côtés-là. Pour finir, donc cette question de l'océan, elle est importante. Vous avez entendu parler des plastiques, vous avez entendu parler aussi des pollutions, de différentes et variées. Donc les Nations Unies ont décidé de créer une décennie des océans pour chercher de pousser les différents gouvernements déjà à se mettre d'accord sur ce qui est les biens communs, qui est l'océan. L'océan, ça appartient à tout le monde, donc c'est plus compliqué de légiférer au-delà des eaux territoriales. Mais il faut les protéger, il faut organiser un peu de manière avec du droit l'utilisation et ce qui doit être empêché, ce qui doit être puni. Et donc, on espère qu'avec cette décennie des océans qui va commencer en 2020, cela va se mettre en place, en espérant que ce ne soit pas trop tard. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avant que vous oubliez des chiffres maintenant, vous voulez entendre aussi la vision. Alors l'océan je n'ai pas amené une image en film pour voir, mais donc l'océan et l'atmosphère, ils sont un peu turbulents. Donc il y a des tourbillons un peu partout, etc. Mais cette turbulence, elle est ordonnée parce que nous sommes sur une planète qui tourne. Et cette rotation terrestre organise un peu le mouvement. Donc par exemple, vous avez le Gulf Stream qui est très intense près des côtes américaines. Et vous avez des courants analogues dans tous les bassins océaniques. Vous avez les Kuroshio dans les Pacifiques Nord. Vous avez les courants est-australiens dans les Pacifiques Sud, vous avez les courants des aiguilles dans l'Indien, vous avez les courants du Brésil Sud dans l'Atlantique Sud. Ils sont tous amassés côté ouest. Et ça, c'est aussi dû à la rotation terrestre, sur le fait qu'on est sur une sphère. Donc c'est un peu lié à l'équilibre physique. Mais c'est aussi pour ça, si vous regardez de loin une image des nuages, vous trouverez que les nuages s'organisent souvent dans des espèces de champignons où il y a des vortex, des tourbillons. On peut, et ce ne sont pas des nuages qui vont de manière pas très ordonnée, un peu partout. Et tout ça, c'est lié à cet équilibre, donc réchauffement tropique, refroidissement au pôle. Donc tout ça commence à bouger, mais dès que ça bouge, ça commence à prendre des formes très organisées, parce qu'on est sur une planète qui tourne. Voilà. On n'a pas des mesures dans le futur. Donc, donc vous devez savoir qu'observer l'océan, c'est quelque chose de vraiment très important, parce que même les prévisions météo, ceux qui vous disent demain il fera beau ou mauvais, pluie, température, etc., dépendent de la température de l'océan. Donc, et cette température de l'océan est conditionnée par ses mouvements. Donc, tout ce qui est océan est très important pour bien d'application et bien d'utilisation par la société humaine. Observer l'océan, ça coûte énormément. Donc, c'est pour cela que nous, scientifiques, nous nous battons tous les jours pour avoir de l'argent et pour pouvoir mesurer. Ça, c'est un peu notre vie, 50% de notre vie, c'est ces combats-là. Mais non, nous n'avons pas du tout des mesures dans le futur. Et donc, nous avons des modèles, des prévisions donc de la circulation océanique dans la semaine prochaine. Et nous avons les prévisions climatiques. Et dans toutes ces prévisions, on voit qu'il y a une modification de la circulation. Donc, il y a des courants qui deviendront moins intenses. Ça modifie donc ces transports de chaleur. Là où il va arriver, il y en aura plus, il y en aura moins. Donc, ça modifiera aussi l'habitat des écosystèmes. Ça modifiera aussi l'impact avec, par exemple, les tempêtes océaniques et atmosphériques, etc. Et donc, c'est pour cela que nous sommes une communauté internationale qui travaille ensemble. Donc, dans la communauté scientifique sur le climat n'est pas faite des spécialistes de l'atmosphère et c'est tout, mais c'est toute une communauté qui travaille ensemble. Et aujourd'hui, on fait un effort encore plus accru pour travailler sur l'océan. Et sous ses impacts, je pense que tu en parleras un peu. Voilà. Celle-là ? Alors, si vous regardez la courbe en jaune, vous arrivez à la voir, la courbe en jaune ? Ça, sont les variations annuelles de la température. Alors, depuis toujours, il y a eu de la variabilité interne au système climatique. Parfois, il y a eu des aires glaciaires, on peut forcer par l'effet que la Terre est plus ou moins loin du Soleil, ou son axe. Mais aussi, on a des phénomènes comme ENSO, par exemple, les El Niño, vous l'avez entendu. Donc, 2016 en particulier a été très chaude, on était dans une année El Niño. Donc, on a une variation d'une année à l'autre, et on a aussi des variations parce qu'il y a des événements volcaniques, par exemple. Donc les volcans, quand ils sont explosifs, ils envoient beaucoup de poussière dans les ciels et ça crée comme une espèce de parasol. Donc il y a moins de rayonnement solaire qui arrive sur Terre. C'est pour cela que certains ingénieurs, ils ont commencé à dire, on va injecter de la poussière tous les temps dans l'atmosphère, comme ça on diminue l'effet du changement climatique. Cela dit, ça coûte cher et après les effets sur la santé, bon voilà, c'est comme habiter à Pékin 365 jours par an. Donc là, il y a une variabilité interne. Donc, je vous ai montré une moyenne, on voit plus facilement cette augmentation. Mais l'été prochain, peut-être, sera beaucoup moins chaude de celle que nous avons vécue parce qu'il y aura eu des événements internes au système qui la font varier.